Bonjour, eh bien aujourd'hui je suis avec Bianca Ochoa qui est du Honduras et habite Montpellier depuis quelque temps. Et elle a fondé une association qui s'appelle Solidarité Honduras. Et nous avons le grand honneur, je dirais, d'avoir cette association à Montpellier. Elle est représentée sur Paris aussi. Mais le siège est vraiment à Montpellier. Donc voilà. Alors Bianca, nous sommes ici parce que c'est l'anniversaire d'un coup d'État qui a eu lieu il y a un an. Ça fera le 28 juin. Et donc il faut en parler de ce pays car ce n'est pas dans les journaux que nous verrons grand-chose. Donc où est situé le Honduras ?
L'Honduras est un pays de l'Amérique centrale, entre le Mexique et la Colombie, et c'est là qu'il se situe l'Amérique centrale. Et puis Honduras, il a des frontières avec le Guatemala, El Salvador et Nicaragua. Et puis c'est un endroit très stratégique au niveau de ce qui est au niveau des politiques militaires aussi.
Voilà, donc il y avait un gouvernement qui était gouverné donc par Manuel Zelaya.
Oui.
Un président
qui s'était élu pour le pays. Et il manquait que 10 mois pour finir son gouvernement. Et lui, il a eu la proposition pour les organisations populaires d'organiser une consultation populaire
pour convoquer une assemblée nationale constituante. Voilà. Mais le jour même où il y avait la consultation du peuple, eh bien, il y a eu un coup d'État.
Il y a eu un coup d'État.
Un coup d'État militaire qui donc a été dirigé par le chef des armées.
Ramón Vázquez Velázquez.
Et également aussi...
Pour le congrès des députés, c'était complètement... il est le président du congrès et c'est lui qui a pris la présidence du pays après le coup d'État militaire.
Roberto Micheletti. Donc voilà deux hommes qui se sont emparés du pouvoir. Mm. Ça s'est donc passé le 28 juin 2009.
2009, oui, l'année dernière.
Alors, ça s'est fait vraiment d'une manière tellement brutale que la réaction, elle s'est faite aussi tout de suite.
Et oui, la réaction, elle était nationale. Toutes les organisations populaires d'indigènes, des syndicalistes, d'enseignants et politiques, toutes les organisations sont mises à l'alerte et au refus de ces coups d'État militaires. Et toutes ces organisations, ils se sont mis ensemble dans un front de résistance nationale qui, depuis un an, continue en résistance et manifestant et aussi déjà très répressive. Et c'était la réponse de la dictature. On a eu plus de 300 violations des droits de l'homme, entre assassinats, disparitions et tortures.
Voilà. Et qu'est devenu le président Manuel Zelaya ?
Manuel Zelaya, il a été exilé en République dominicaine, où lui, il s'est manifesté à faveur des fronts de résistance. Maintenant, il fait partie des fronts de résistance. Et lui, il s'est nié à retourner au pays jusqu'au moment qu'il soit reconnu toutes les violations des droits de l'homme qui sont en train de se passer en Honduras. Et maintenant, pour...
Alors, une situation grave. Et qu'est-ce qui s'est passé dès le coup d'État ? Après le coup d'État,
Après le coup d'État, c'est installé. Ils ont fait des élections frauduleuses où le 15% de la population a voté. Et ils sont élus à Porfirio Lobo, qui est dit, entre guillemets, c'est le président de la République, où tout le monde dans Honduras, on le reconnaît comme la continuation de la dictature de coup d'État.
Oui, c'était le candidat du Parti National qui est donc arrivé au pouvoir en janvier 2010.
Ou en janvier 2010, le même jour. C'est là qu'il a été cité dans l'ambassade du Brésil, où il était torturé et toutes ces choses abominables qui sont passées pendant 3 mois. Et après, le même jour que Porfirio Lobo a pris la présidence, et Manuel Zelaya, il est parti à République dominicaine.
Alors, ce qui est bien sûr très grave, c'est que les États-Unis ont reconnu, dès le lendemain de cette élection frauduleuse, ils ont reconnu le pouvoir de Porfirio Lobo.
Ils sont reconnus et maintenant, c'est déjà le président, ex-président Manuel Zelaya, il a dénoncé maintenant que c'est le Pentagone qui est derrière tout le coup d'état militaire. C'est eux qui sont tous manigancés pour faire ce coup d'état avec l'oligarchie du Honduras et les militaires, parce que c'était un président qui voulait un peu changer les choses au niveau des droits de l'homme dans le pays. Que c'est des choses qu'on ne peut pas faire à Honduras. C'est un pays qui est dans la République bananière depuis le 19e siècle. Et puis, comme j'avais dit au premier instant, c'est un pays, que c'est un endroit stratégique au niveau politique et militaire, parce que c'est dans le centre de l'Amérique centrale. Alors, il y a des enjeux très forts au niveau pour les États-Unis.
Du point de vue économique, est-ce qu'il y a des ressources qui sont enviées par d'autres?
Ah oui, le pays, elle est complètement vendu à tous les transnationales. Et toutes les terres appartiennent à des transnationales et à l'oligarchie du pays.
Donc, c'est des pouvoirs financiers qui dépassent le Honduras. C'est des multinationales qui gèrent le pays, en quelque sorte.
Oui, le pays, il est tellement dans la misère parce qu'on ne nous appartient rien du tout. Le pays est complètement vendu. Il y a 10 familles qui tiennent le pouvoir économique et puis tout le peuple, on est soumis dans la misère.
Alors, le peuple est descendu dans la rue et vous avez apporté de la musique qui, je pense, exprime sa lutte. De quoi s'agit-il?
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar.
Alors, Bianca, j'aimerais que vous nous traduisiez rapidement ce chant.
C'est nos tienen miedo porque no tenemos miedo. C'est eux, ils ont peur parce que nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on a plus, on a des siècles d'avoir peur. Et en ces moments, c'est le moment que ces livres en lutte pour reconquérir le pays, pour reprendre notre pays en main et récupérer nos terres et nos vies. Alors, c'est ça à peu près qu'il nous dit, la chanson.
Voilà, alors il y a eu bien sûr des comités de défense des droits humains au Honduras, un comité des parents de détenus et des disparus qui a fait des enquêtes et qui a signalé, comme vous le disiez tout à l'heure, de nombreuses violations des droits humains, des assassinats. Alors on en a compté du 30 janvier au 28 mai 700 violations des droits de l'homme, 12 assassinats. Depuis le coup d'État, c'est beaucoup plus important puisque c'est 9000 violations, 544 incidents, parce qu'on attaque évidemment les défenseurs des droits de l'homme, comme ça s'est fait malheureusement dans beaucoup de pays d'Amérique latine et d'ailleurs. Et alors là, ce qu'il faut dénoncer évidemment, c'est la campagne médiatique qui est menée par l'État actuel. C'est pour cela que notre presse est si silencieuse. parce que là-bas, sur le terrain, on a fermé de nombreuses radios, on a évidemment enfermé les leaders syndicaux, les leaders ruraux, et puis la radio communautaire, par exemple, de Zacate Grande a été fermée. Et il y a aussi des syndicalistes de l'Université autonome du Honduras qui ont été aussi poursuivis. On a licencié les juges et les magistrats qui se sont opposés au coup d'État. Ça, c'est très grave parce que, évidemment, la justice, devant ces nombreuses atteintes des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle peut faire si les juges sont achetés ?
Tout à fait. Et puis en ce moment, pour toutes ces violations et tous ces abus qu'il y a en Honduras, il y a à peu près 7 grèves de faim. Il y a les juges qui sont en grève de faim, il y a des enseignants, il y a des syndicalistes, il y a des paysans. Il y a, partout, il y a des grèves de faim parce que la lutte du front de résistance, justement, on résiste en paix, c'est une lutte pacifique. Nous, on ne veut plus retourner aux armes et personne ne veut retourner aux armes. Et ce qu'ils font, et l'oligarchie et les États-Unis même, je pense que ce qui pousse à d'avoir une guerre civile, une chose que personne ne veut en Honduras parce que...
Alors le Front National de Résistance Populaire, comme vous le dites, il mène une lutte démocratique.
Tout à fait.
Une lutte dans la rue.
Oui.
De nombreuses manifestations ont eu lieu. Oui. Mais actuellement, les manifestations... sont beaucoup moins nombreuses parce qu'il y a du danger.
Il y a du danger. Nous, un pays comme Honduras, de 7 millions d'habitants, il se positionne maintenant dans les premiers pays des violations les plus dangereuses du monde. Un petit pays de 7 millions d'habitants où il y a eu en 2 mois 7 assassinats des journalistes. Dans chaque coin du pays, c'est pour silencier tous les médias, pour rien dire que dans le pays, il se passe rien, qu'il n'y a pas d'assassinat, qu'il n'y a pas de répression. Et ils veulent nous silencier.
Alors, le cas de Micheletti, là, le président de la Chambre des députés, qui a en fait donné le pouvoir aux militaires et à Lobo, devrait être étudié par le tribunal pénal international.
Tout à fait, oui. Il y a des dénonces qui sont déjà mises dans le tribunal national international et puis ça passe rien. Le coup d'État, on croyait qu'on pouvait le renverser et encore, ça passe rien. C'est des questions que tous les Honduriens se posent. Comment c'est possible? C'était le coup d'État le plus dénoncé de toute l'histoire. Et il continue, et la dictature continue, la répression continue.
Alors le Front de Résistance Populaire demande l'installation d'une commission de vérité alternative.
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'ils sont, mis la commission de la verdad, que c'est seulement, c'est eux-mêmes, les répresseurs, qui veulent et qui participent dans cette commission. Et comme les assassins et les répresseurs, c'est eux-mêmes qui vont faire la justice à eux-mêmes. C'est une chose qui est aberrante. Alors, et de côté de la résistance, il commence à se former un comité avec des grandes personnalités de la paix au niveau national et au niveau international, des niveaux comme Rigoberta Menchú, plusieurs Nobel de la paix.
Alors, il faut faire reconnaître aussi les exactions, donc, qui sont très nombreuses, par la Cour pénale internationale.
Oui.
Tout cela, ça demande du temps, ça demande évidemment une organisation et surtout le soutien de la communauté internationale.
Oui. De tous les pays qui continuent à dénoncer et de ne pas reconnaître, surtout pas reconnaître, ces gouvernements que c'est un dictateur de Porfirio Lobo.
Alors, vous avez décidé donc de porter au public montpelliérain toute cette information grâce à un film qui est intéressant puisqu'il il s'intitule justement « Qui a dit peur ?» comme un peu ce qu'on a entendu dans le chant.
Tout à fait.
Alors, nous allons peut-être écouter à nouveau la musique que vous avez apportée et nous reprendrons sur le film.
América, un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora no quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad.
Le chant.
Le chant, il raconte comment s'est passé le coup d'État. Comment s'est passé le coup d'État, comment ils sont sortis, le président Manuel Zelaya. Et puis, après ces coups d'État terribles, comment le peuple continue à résister. À résister et qu'on n'a pas peur. Et on ne va jamais se taire jusqu'à ce qu'on a notre droit pour une constituante.
Voilà, pour défendre ses droits, donc le peuple est tout à fait prêt et le montre tous les jours. Et c'est ce qu'une réalisatrice qui s'appelle Katia Lara montre dans le film qui va être présenté jeudi 24 juin au Diagonale à 20h, avec bien sûr votre présence, la présence du comité. La réalisatrice et aussi...
Non, seulement la réalisatrice à dernière
l'acteur.
Minute. Non, l'acteur, il ne pourra pas parce que...
Ah, il ne pourra pas.
Bon, après, je veux dire.
Ah bon, dommage, oui.
Oui, seulement, mais la réalisatrice, elle va être là.
Voilà. Alors, cette réalisatrice, elle a voulu montrer justement ce qui se passe dans les luttes populaires.
Tout à fait. En plus, c'est elle était la directrice de la campagne qui avait lancé le président Manuel Zelaya pour la constituante. Et toute la campagne de télévision, c'était elle qui l'avait réalisée. Et justement, le slogan de la campagne avant le coup d'État, c'était « Qui a dit peur ?». C'était ça le slogan de la campagne, parce que les gens ils avaient peur d'aller signer, cette campagne de la constituante. Alors, la campagne, c'était ça. Et ça donnait la continuation après le coup d'État, parce que « Qui a dit peur ?». Personne n'a peur. Après, c'était ça le slogan de la résistance. Nous, on n'avait pas peur d'aller chercher nos droits. Et puis, elle raconte, depuis cette campagne, la continuation des coups d'État et tout le processus pacifique qu'il y a eu pendant la résistance, donc pendant toute cette année, juste après de l'élection de Porfirio López.
Oui, donc c'est vraiment un documentaire qui montre ce qui se passe.
Tout à fait.
Au Honduras.
Tout ce qui se passe, oui. Tout ce qui est passé dans cette année.
Cette année. Et alors, un des acteurs, justement, qui était celui qui avait servi, justement, de promotion pour le vote populaire.
Oui.
Eh bien, il s'est engagé dans la résistance et il a été exilé. Il est exilé
maintenant. Maintenant, il est exilé. Il était persécuté.
En Espagne.
En Espagne, à Madrid. Il habite à Madrid. Parce que maintenant, c'est une avant-première mondiale de ce film. Hein. Il vient d'être sorti. La première, c'était à Buenos Aires, parce que c'est une coproduction Honduras-Buenos Aires. Et maintenant, elle se présente à Bolivie, et en plusieurs pays de l'Amérique du Sud.
En France, à Paris et à Montpellier en même temps.
Et en France, non.
Montpellier avant.
Oui, Paris.
Voilà.
Oui. Montpellier, et Bruxelles, c'est pour ça qu'il ne vient pas l'acteur, parce que Bruxelles, elle a trouvé une salle aussi, et se présente le 24 aussi à Bruxelles.
Ah.
À Bruxelles et à Montpellier, c'est le 24 juin. Et le jeudi, à 20h, à même instant, on va présenter
au
même temps.
Voilà, au Diagonale.
Au Diagonale, ici à Montpellier. Et à Paris, il va être le 25. Il va être présenté aussi en Espagne et en Hambourg.
Et partout, évidemment, dans les pays d'Amérique latine, et
oui.
comme le Venezuela.
Oui, dans toute l'Amérique latine,
la
il va
Bolivie.
Se présenter. Et l'idée, c'est de présenter le 28 juin, qui c'est le jour des coups d'État, il va se présenter à Honduras.
Et là, on a pu trouver des salles au Honduras, c'est,
oui,
c'est
on
formidable.
A des, non, on a des salles, mais ça va être une surprise parce qu'on ne peut pas annoncer la salle dû à la répression qui se vit dans le pays. Il va être une surprise. On va annoncer la salle et le moment où il va se présenter. Et en surprise, on ne sait pas. Tout le monde attend dans le pays.
Ah oui, en effet. Oui. En effet. Donc, un grand honneur pour Montpellier de voir ce film en priorité avant tout un tas d'autres
Oui, avant, pays. C'est la première en France, ça va être en Montpellier, oui, 24 juin.
Alors, j'aimerais que vous disiez à nos auditeurs où on peut vous joindre, si on veut vraiment suivre les activités de l'association Solidarité Honduras.
Oui, pour ceux qui ont un Facebook, par exemple, j'ai une page de Facebook, ça s'appelle Association Solidarité Honduras. Là, vous pouvez me laisser vos messages si vous voulez. Sinon, si on a ma adresse électronique, c'est solidarité.honduras@gmail.com. Et aussi, on a le blog Solidarité Honduras sur la web.
Eh bien, merci beaucoup. Je termine rapidement avec le calendrier très riche de cette semaine des associations de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale. Le lundi, dès ce soir, à 19h, à la salle Martin Luther King, il y a un débat sur la Turquie à la porte de l'Europe et la question kurde. Et évidemment, c'est tout à fait d'actualité, puisque la Turquie vient de montrer sa sympathie pour la Palestine. Et donc, le débat est organisé par le MDPL Le Mans et la Maison de la Paix à Mid-Larche, avec le soutien de la Ligue des droits de l'homme, de la CIMAD, bien sûr. Les intervenants sont Jean-Paul Nunez de la CIMAD et Ali Dogan, qui est un ethnologue kurde, qui revient justement de plaider la cause des Kurdes auprès du Parlement européen. Donc ce sont des nouvelles toutes fraîches que vous pourrez entendre si vous pouvez vous rendre ce soir à 19h, tout à l'heure, donc, à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. Et ce même jour, aujourd'hui, au cinéma Diagonale, on peut voir un film qui est une chronique sur Gaza, un film documentaire de Nicolas Vadimov. Ça a été un film qui a eu le prix du jury œcuménique du Festival de Berlin en 2010. Et il montre Gaza détruit, mais pas mort. Mardi 22, donc à 20h, au Salon du Belvédère, c'est une conférence de René Bachmann, rédacteur en chef au Nouvel Obs. Et qui parlera de la colonisation de Jérusalem, Jérusalem, enjeu capital, organisé par la FPS et les Amis du Monde Diplomatique. Mercredi 23 juin à 20h, mais nous ne pouvons pas encore vous donner la salle, c'est le témoignage des membres de la Flottille pour la Liberté de Gaza, organisé par la coalition contre Agresco. Donc restez attentifs, ce sera dans le journal. Et puis, il y a également cette semaine, une rencontre qui s'appelle « À la rencontre des Roms chez nous ». C'est une rencontre débat qui a lieu dans le cadre du Printemps des comédiens et qui est organisée dans le cadre des Cafés de la diversité par le Centre documentation Tiers-Monde, Médecins du Monde et la CIMAD. Une rencontre débat avec des témoignages proposés sur la vie des Roms chez nous, notamment à Montpellier et à Béziers. Il y aura sur place un stand de livres et de documents, donc jeudi 17 juin à 20h, au Printemps des comédiens, dans les Cafés de la diversité. Et puis, le samedi 19, c'est la Journée mondiale des réfugiés à Montpellier, à l'appel du collectif des réfugiés et de la CIMAD. Il y aura un défilé qui partira de la place Albert Ier à 11h jusqu'à la place de la Comédie. Et ensuite, à 12h30, un pique-nique sur l'esplanade avec animation, forum théâtre, chorégraphie, etc. Voilà pour la semaine. À bientôt, chers auditeurs. Merci à Bianca Ochoa. Je rappelle que l'association Solidarité Honduras fait partie du collectif ALBA, oui, bien présent sur Montpellier, et également membre de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale. À bientôt.